France Inter,
RFI, Radio France Internationale,
RTBF,
Radio Télévision Suisse,
Radio Canada.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette cinquième saison de la librairie francophone estivale. Nous allons vous faire voyager à travers les cultures du monde. Confidences, séquences inattendues, grands entretiens, rencontres, livres de poche, reportages et libraires du monde. Voici la formule 2021 pour vous ouvrir des portes vers l'ailleurs. Aujourd'hui dans le club francophone, une étape en Haïti avec un hommage à Michel Monin qui a fondé avec sa famille d'origine suisse la Galerie Monin à Pétionville. Reportage et témoignage du poète James Noël et de sa fille Pascale Monin qui réagiront aussi à l'assassinat du président haïtien. Nous irons en Côte d'Ivoire avec un libraire, dans un aéroport avec Tahar Benjelloun de l'Académie Goncourt, dans les rues du centre-ville d'Ajaccio, le quartier de l'enfance de Napoléon Bonaparte. Et vous entendrez aussi Arthur H. et le prix Goncourt Hervé Le Tellier.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
Et on commence cette émission avec La Confidence. Cet été, 9 personnalités nous racontent une anecdote personnelle jamais racontée dans les médias. Aujourd'hui, c'est l'artiste, rappeur et auteur Akhenaton qui vous fait sa confidence.
C'est une anecdote de scène, en fait. On part souvent en tournée avec le groupe IAM et on effectue toujours des entrées de scène un peu particulières, très souvent dans le noir et... On avait monté sur une scène à l'Olympia qui était très peu éclairée à l'époque. On rentrait avec des tenues on avait demandé des tenues de Jedi.
Ah oui.
Et en fait, on a reçu les tenues. Elles avaient des cagoules droites, on aurait dit Ku Klux Klan. Donc tous les premiers concerts, on se marrait trop. On s'est dit, on va se débarrasser de ces tenues-là et on va rentrer dans le noir complet, ce sera encore mieux. Et un jour, on avait cette scène-là qui était légèrement avancée, avec tous les échafaudages qui étaient derrière la scène. Et Khéops montait et devait envoyer la musique. Mais il est monté dans le noir complet. Ouais. Moi, je me souviens être dans le noir et d'un coup, j'entends... du métal et tout. Et je vois Khéops sortir de dessous la scène. Je dis, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il était tombé, le pauvre, il était tombé de 3 mètres dans tous les échafaudages. On est monté sur scène avec des fous rires. J'arrivais plus à rapper. Ça nous est arrivé plusieurs fois avec IAM d'avoir des fous rires sur scène et tout. Mais là, vraiment, j'arrivais plus à faire le premier morceau. Les gens devaient se demander pourquoi on rigolait. Mais ça a été. Après, je pourrais rencontrer des dizaines parce qu'on a tellement fait de scènes et tellement de conneries. Mais celle-là, elle était pas mal.
Après cette confidence inédite d'Akhenaton, voici une nouvelle séquence inattendue que vous retrouverez tout au long de cet été dans la librairie francophone estivale. Le principe, emmener un auteur ou un artiste dans un lieu a priori improbable. Aujourd'hui, c'est Tahar Benjelloun qui vous emmène dans un lieu propice au voyage. Bonjour Tahar Benjelloun.
Bonjour Emmanuel.
Où sommes-nous là? Vous nous emmenez dans un endroit... qui évidemment évoque le voyage.
Nous sommes dans un aéroport, l'aéroport d'hier, qui fait Toulon-Paris. Et c'est un aéroport vide, il n'y a pas beaucoup de monde.
C'est un petit aéroport, l'aéroport Toulon-Hier. Des vols partent de la Côte d'Azur pour Paris et d'autres villes. Hein. Brest aussi, on a un départ pour Brest. Vous voulez pas aller à Brest? C'est Paris-Orly, Brest ou Nantes?
J'aime beaucoup la Bretagne, mais pour le moment, j'ai envie de rentrer chez moi.
Bon alors, l'aéroport... c'est quelque chose qui évoque des souvenirs pour vous, Tahar Benjelloun. Ah, et cette notion de voyage, ça se prépare, le voyage.
Bon, écoutez, là, déjà, vous avez de la chance parce que on aurait dû venir il y a 2 heures ici. Parce que mon principe, c'est de venir 3 heures à l'avance, mais pour un départ à l'intérieur de la France, à Paris, Toulon, ça correspond à un traumatisme que j'ai eu il y a très longtemps. J'étais vraiment gamin, j'avais 15-16 ans. C'était la première fois que je prenais l'avion. Et donc, je partais de Casablanca par un vol de nuit sur une caravelle. Ça n'existe pas, tout ça. Et puis, j'étais invité par la Fédération des Ciné-Clubs de France. Tout ça n'existe plus. Ni la caravelle, ni les Ciné-Clubs, mais moi, j'existe toujours. Je suis là. Et je prends l'avion de nuit, en plus. Et j'étais très heureux d'arriver. Et j'arrive à Paris. Et je vais à la gare Saint-Lazare. Et je prends le train... pour aller à Marly-le-Roi, où se passait ce stage magnifique. et où je vais rencontrer des très grands cinéastes. À l'époque, c'était ma passion, c'était le cinéma. Bon, bref, je passe 12 jours et je me suis fait des copains. Et puis, je devais repartir un vendredi, je me souviens très bien. Et les copains me disent, bon, t'accompagnes à l'aéroport, c'est à quelle heure ton avion? J'ai dit, à 5 heures. Et je me suis pointé à
5h du matin?
Ah non, à 17h.
Ah oui.
Je me suis pointé à l'aéroport d'Orly à 17h moins 10. Je pensais comme le train. Tu arrives et tu montes, voilà. Et je vois l'hôtesse qui me regarde, dit, monsieur, ça va pas là? Il fallait venir 2 heures, enfin une heure, au moins 1 heure avant. Je dis, ah mais je savais pas. Il y avait donc impossible d'embarquer. Et je me suis retrouvé, j'avais 15 ans et demi, 16 ans, mais pas 16 ans, sans le sou, pas un centime, complètement désemparé, avec ma valise. Et j'ai téléphoné à mes parents en PCV à l'époque, ça n'existe plus non plus. Tout ça, c'est la préhistoire, pour leur annoncer que j'ai raté l'avion. Et voilà que j'ai passé 24 heures à Orly, qui sont inoubliables jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai passé la nuit sur des banquettes en Sky. Je hais le Sky, je déteste le Sky depuis ce jour-là. Et heureusement qu'il y avait une hôtesse qui a pris pitié de moi, qui m'a donné un sandwich pour ne pas crever de faim. Et je suis donc finalement parti le lendemain dans un autre avion, etc. Mais enfin, ça a constitué chez moi un traumatisme persistant. Quand je dois prendre un avion, je suis 3 heures à l'avance, je suis le premier à être là. Cela dit, une fois que je suis dans l'avion, je suis très bien. Je n'ai pas peur dans l'avion.
Ah, vous n'avez pas peur de l'avion du tout?
Non. Je trouve que l'avion, c'est un outil merveilleux. Je fais confiance au pilote, mais je surveille. Parce que si jamais le pilote, il sort, il va faire la cour, il va flirter avec l'hôtesse, je dis non, il faut que tu retournes de t'occuper de ton avion. Et je fais confiance, c'est-à-dire que je suis pris en charge. Qu'est-ce qui peut arriver? Que ça crache? Mais alors, je ne peux rien faire. D'ailleurs, on n'a jamais vu que le fait d'avoir attaché sa ceinture, ça empêche quelqu'un de crever quand il y a un crash. Jamais.
C'est pour éviter, quand il y a des turbulences, sortir du siège et de se retrouver collé au plafond, ça existe, ça.
Non, la peur existe, mais la turbulence...
Non, c'est pas la peur, c'est vrai, ça. La ceinture, ça sert à ça, à pas être détaché du siège.
Mais les turbulences ne m'ont jamais fait peur, parce qu'un jour, un pilote, un ami, m'a bien expliqué. Il m'a dit, turbulence, c'est rien. Même la faute qui frappe, c'est rien. Dans l'avion, je suis très confiant.
Bon, on va se lever là parce qu'on est sur un siège de l'aéroport que vous connaissez tous, hein, ces sortes de sièges banquettes, parce qu'il y a un avion qui arrive de Belgique sur le tarmac ici de Toulon hier, voilà, l'avion de Charleroi, voilà, qui arrive de Charleroi, qui vient tout juste d'atterrir.
Vous connaissez bien les horaires de tous les avions qui viennent.
Parce que j'ai un écran face de moi.
Ah oui, d'accord. Oui.
Pendant que vous parliez, je regardais l'écran.
J'avais un ami qui est là-dedans, qui vient d'arriver de Charleroi.
Non, pas du tout. Voilà l'avion qui arrive, on a vu sur le tarmac ici avec les avions, quelques avions, hein. C'est un petit aéroport, hein, sur la Côte d'Azur ici.
Mais arrêtez de minimiser, c'est un bel aéroport.
Mais je minimise pas, c'est un petit aéroport.
Au moins, on ne s'y perd pas. Parce que si vous êtes à l'aéroport de Francfort, il faut avoir un guide pour circuler. Il faut rappeler aux auditeurs qui ne savent pas ce qui se passe, parce qu'il fait très beau aujourd'hui, le ciel est bleu, les montagnes sont tranquilles, il n'y a pas de vent, c'est magnifique. Et on est au bord de la Méditerranée, et ça c'est un bonheur, parce que ça me manquait tellement.
Alors comment se passe les préparatifs d'un voyage, Tahar Ben Jelloun? Parce qu'il y a tout un cérémonial, je suppose, pour vous, puisque vous devez arriver très tôt à l'aéroport. Du coup, il y a un peu de stress dans tout ça?
Non, il n'y a pas de stress. J'ai une technique impeccable. D'abord, je ne donne jamais mes valises en soute, jamais.
Ah, jamais?
Souvent. Alors j'ai toujours la valise qu'il faut, la petite valise qu'il faut, où il y a le strict minimum, mais je me débrouille. Bon, Deuxièmement, je fais ma valise en 3 minutes. C'est ce qu'il faut. Tac, 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 tac. Je compte les jours, par exemple. 5 jours, 5 chemises, 5 slips. Voilà, tac, 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 ça passe. Ça m'est arrivé aussi une fois, je partais à Montréal et j'ai mis une semaine pour retrouver ma valise qui est arrivée déchirée. Non, je fais pas confiance.
Un seul bagage à main est autorisé en cabine.
Vous voyez, un seul bagage à main, dit la dame.
Oui, mais là elle est perdue, là. Vous vous rendez compte, si par exemple, vous ratez votre avion. Bon, je vais par exemple pour faire une conférence à Milan ou à Copenhague, n'importe où. Parce qu'il y a d'autres choses qui vont s'annuler. Il y a une série de choses.
La cascade, oui, c'est ça. Regardez, il y a un avion qui atterrit derrière vous.
Ah, il arrive là.
Tout bleu, regardez.
Ah, un autre qui atterrit là. Il vient d'où celui-là? De Francfort, peut-être. Ben, je... Vous devez savoir, parce que vous savez tout.
Bon, on va laisser cet avion bleu, d'ailleurs, s'installer face à la passerelle devant nous, ici, à Toulon, hier. Merci, Tahar Ben Jelloun, pour ce voyage dans la librairie francophone estivale.
Merci beaucoup.
Et le dernier roman de Tahar Ben Jelloun, Le miel et l'amertume, est paru chez Gallimard. À suivre dans la librairie francophone estivale, un entretien inédit dans les rues d'Ajaccio sur les traces de Napoléon. Ce sera après la chanteuse Emma Peters.
C'est pas moi qui fixe les règles, mais c'est moi qui tire les cartes. Et si demain tu m'agaces, de ma vie je t'écarte. Y'a pas de place pour les jaloux, les rageux, les envieux. Aimons-nous maintenant, demain j'ai peur qu'on soit trop fieux. Les plus belles histoires sont celles qu'on se fait dans la tête. Dedans je te guette, dehors tu m'arrêtes. Mes plus belles amourettes sont celles que je m'invente. Entrée VIP pour ma tête et si ça te tente, faut pas croire ce qu'ils racontent. Ils ne me connaissent pas, gros virement sur mon compte. Non, ça, ça leur plaît pas, mais cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire, de nous on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire, c'est tout, cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire, de nous on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. Je te quitte pour un seul mot. Je t'épouse pour un texto. Je pleure pour un ciel pauvre. Je tiens plus debout, mon salaud, en cavale dans Paris toute la noche. J'ai bu beaucoup trop de lit, je sais pas comment je vais rentrer. Mais si de tes bras tu me sauves de mon cauchemar, je te jure que c'est la dernière fois que je rentre aussi tard. C'est la terre des terres, je l'ai promis à ma mère. Oh, c'est la terre des terres. Cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout, cherche pas à leur plaire. Ils ne savent pas quoi faire. De nous, on est bien trop fous. Ils voudraient nous faire taire. C'est tout.
C'était Emma Peters avec Fou sur France Inter, la RTBF, la RTS, ici Radio-Canada et sur RFI.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Quérade.
En cette année 2021, Napoléon Bonaparte est à l'honneur avec de nombreux livres parus sur le sujet, essais et BD dont vous pouvez retrouver une sélection sur le site internet de l'émission. On part tout de suite en Corse, à Ajaccio, la ville natale de Napoléon, sur les traces de sa jeunesse.
Isola idea di la mio alba.
Bonjour Pierre-André Nicolai.
Bonjour.
Vous êtes guide conférencier pour l'Office du tourisme ici à Ajaccio et nous sommes sur les traces de Napoléon. Nous allons visiter le quartier de Napoléon. On est devant la maison Napoléon Bonaparte, la fameuse maison, et on est dans une rue qu'a emprunté l'empereur.
Ah tout à fait, Napoléon lorsqu'il est enfant et puis même lorsqu'il a une vingtaine d'années et qu'il vient ici à Ajaccio régulièrement, bah, il emprunte ces ruelles où nous sommes, hein, ruelles qui n'ont pas changé hein, forcément, donc certains édifices, comme les édifices religieux d'ailleurs, hein, là on passe à côté de l'église Saint-Jean-Baptiste, ouais, existaient déjà à côté à l'époque de Napoléon, et bien sûr il est passé à côté, il a vu cet édifice.
Alors on a des bars aujourd'hui, hein, des petits restaurants.
Oui, il n'y en avait pas autant
c'est, pardon. On percute des piétons au passage. Mais il y a un aspect très historique dans ce quartier qui a été conservé. C'est la vieille ville en fait, c'est l'âme aussi d'Ajaccio.
Tout à fait. C'est un petit périmètre la vieille ville hein, dans Ajaccio, parce que ce qu'il faut bien imaginer, c'est que maintenant Ajaccio c'est près de 70 000 habitants hein, et Ajaccio grandit de plus en plus, mais à l'époque de Napoléon Ajaccio c'était à peu près 5 000 habitants, donc c'est tout petit hein, c'est un village de pêcheurs hein, voilà, ça met en perspective quand même le destin de Napoléon hein, il naît dans un village de pêcheurs de 5 000 habitants parce que c'est plus ou moins ce qu'est Ajaccio à l'époque.
Alors là, on est face à la cathédrale d'Ajaccio, célèbre cathédrale d'Ajaccio, qui est magnifique puisqu'elle donne face à la mer. Et beaucoup ont été baptisés ici. Il y a des cérémonies religieuses importantes pour les Ajacciens et notamment pour Napoléon. La famille Bonaparte était très pieuse d'ailleurs.
Oui, la famille Bonaparte était très pieuse, hein, surtout la mère et même, on va dire, les grands-parents de Napoléon qui, dès qu'il y avait une messe, on en parle, hein, allaient régulièrement pour y assister. Mais bon, c'était l'époque aussi, hein, je pense, qui voulait ça. Et d'ailleurs, Napoléon a été baptisé, hein, dans cette cathédrale à l'âge presque de 2 ans.
Alors, il y a une école qui existe encore.
Tout à fait.
Et c'est l'école de Napoléon.
Ah oui, alors oui,
allons-y,
c'est vrai
que... parce qu'elle n'est pas très loin d'ici.
Ah non, elle n'est pas très loin d'ici. C'est vrai que
on passe par où, par la mer ou pas?
Tout droit.
Non, tout droit.
Tout droit.
Alors voilà, voilà, l'école élémentaire Fortioli Conti.
Voilà, alors là, c'est un détail de l'histoire parce que faut bien imaginer que c'était avant l'école des Jésuites. Voilà. Et d'ailleurs, la cour d'école que l'on voit avec ses mûriers platanes, ce béton et puis ses cages de foot, ouais, sur les plans d'avant, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, ça, c'était le jardin des Jésuites. Ouais. Donc les Jésuites, le moindre espace de terre était exploité. Hein, et les Jésuites, ici, ils avaient planté quelques arbres et puis autres cultures qui pouvaient subvenir à leurs besoins. Maintenant, c'est devenu une cour de récréation. Et puis le bâtiment qui est juste derrière cette cour, c'était... une école où les Ajacciens venaient ici. Et cette école a quand même formé des personnages célèbres. Napoléon en premier lieu.
Ouais.
Donc imaginez, un empereur est allé à l'école ici. Hein, voilà.
Oui.
Un futur empereur, parce que bon, il ne s'attend pas du tout à ce qui va lui arriver lorsqu'il vient ici à l'âge de 7 ans, hein, ouais, bien entendu, à l'âge de 8 ans. Un roi a été à l'école ici, puisque le grand frère de Napoléon, Joseph, qui a été roi d'Espagne, est venu à l'école Fortioli Conti. Hein.
Alors on a cette cour d'école qui est très caractéristique parce qu'elle est presque en arc de cercle et elle est bordée par la mer. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie en fait de la vue quand on est dans cette cour qui donne sur la mer et qui donne sur un autre élément phare d'Ajaccio, c'est la citadelle.
Tout à fait, la citadelle d'Ajaccio. Alors,
on va traverser, comme ça on va être plus proche des remparts.
Alors, cette citadelle d'Ajaccio, qui a été faite principalement au XVIe siècle, hein, en sachant qu'à l'origine, ce n'est pas une citadelle que les Génois construisent ici, c'est un château, un castello. Voilà. Et puis, l'artillerie faisant beaucoup de progrès, les Génois vont vouloir fortifier Ajaccio. Et d'un château, ils vont faire cette citadelle, qui fait quand même 2,5 hectares. Hein. Si vous allez à Calvi, à Bastia ou à Bonifacio, les citadelles sont des lieux habités, où il y a une population tout au long de l'année. La citadelle d'Ajaccio n'est pas habitée. Voilà. Et ça a appartenu à l'armée et ça a été longtemps fermé au public. Et là, dans très peu de temps, vu que la ville d'Ajaccio est devenue acquéreur du site, cette citadelle sera ouverte.
Alors génial.
Ah oui, pas en totalité parce que forcément il y a des travaux à faire, tout ça, mais en partie elle pourrait être visitable et c'est quand même un lieu d'histoire assez important pour Ajaccio et même pour la Corse.
Ah bah oui. Alors là on est à l'angle de la corniche, il faut savoir qu'il y a une corniche qui borde la ville, le centre-ville d'Ajaccio, on arrive à l'angle et quand on tourne à gauche on va vers la citadelle, on va vers le quartier Saint-Charles où il y a la maison Bonaparte et vous entendez la mer en dessous, voilà, et puis des baigneurs, c'est le paradis, il le disait, hein, c'est le paradis terrestre, hein, Napoléon le disait.
Oui, je pense que certains auditeurs qui vont vous écouter, surtout s'ils sont loin et dans un pays froid...
Bon, là encore, ça devrait aller.
Oui, on va leur donner envie de venir.
Cette période, ça doit...
Voilà, on va leur donner envie de venir.
Voilà, avec le sable fin
juste
en bas.
Ah oui, il y a des gens qui baignent. Hein.
Oui, et puis il y a un jeune qui nous montre ses fesses. Tiens.
Il devait avoir du sable dans le maillot. Après, il avait l'âge pour pouvoir le faire. S'il a été un petit peu plus vieux...
Il a cru qu'il y avait une caméra, mais il n'y a pas de caméra pour lui, dommage. Voilà, on arrive vers le musée du cardinal Fesch, le musée Fesch qui existe aujourd'hui. Le cardinal Fesch est un grand collectionneur et c'est lui qui va permettre à Ajaccio d'avoir un musée très important, aujourd'hui encore. Puis il y a un rapport avec la Suisse aussi, c'est l'oncle de Napoléon Fesch.
Oui, exactement. Alors, le palais Fesch, musée des Beaux-Arts, puisque c'est l'appellation du musée depuis quelques années, est un musée très important pour la Corse et même au-delà de la Corse, pour la France, parce que c'est un des premiers musées français en termes de peintures italiennes. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, qu'une ville comme Ajaccio, qui est une ville moyenne hein, de 70 000 habitants, puisse avoir ce musée-là. Voilà. En France, vous avez le Louvre, avec bien sûr ses collections inclassables et magnifiques. Et puis, juste derrière le Louvre, en termes de peinture italienne, hein, voilà, vous avez le Palais Fèche. Et dans le Palais Fèche, ben, vous avez près de 450 tableaux exposés. Et au milieu de ces 400 tableaux, ben, vous avez un chef-d'œuvre de Botticelli, œuvre de jeunesse. Il n'y a pas beaucoup de Botticelli en France, hein, Ajaccio en a un. Hein. Vous avez un Titien. Pas mal, hein. Bon, là, pour le coup, il était prêté par le Louvre, mais bon. Il y a Ajaccio, c'est ce qui compte. Un Véronèse également.
Magnifique, ouais.
Magnifique. Il y a un Nicolas Poussin, bon, qui pour le coup n'était pas italien, mais qui a passé une bonne partie de sa vie en Italie. Et puis un Bellini, et puis d'autres tableaux primitifs. Vous avez des œuvres, elles ont 1400, elles ont à peu près 700 ans, quoi. Donc vous imaginez un petit peu ce musée Fèche. Et effectivement, on parlait tout à l'heure des patronymes d'originaires d'un petit peu partout en Italie. Fèche, c'est pas très italien. Et pour cause, c'est originaire de Suisse, voilà, du canton de Berne. Et pourquoi l'oncle Napoléon se retrouve-t-il avec un patronyme d'origine helvétique? Ben parce que, en fait, la mère de Letitia, la mère de Letitia, avait donc d'un premier mariage eu Letitia. Mais elle va se remarier avec un homme, Fèche, qui est originaire de Suisse, donc. Et ce François Fèche, avec la mère de Letitia, va avoir un garçon, Joseph Fèche. Donc Joseph Fèche est le demi-frère de la mère. Et lorsque Letitia couche de Napoléon, Joseph Fèche devient tout naturellement son oncle.
Voilà, et il y a un parcours comme ça où on apprend plein de choses sur Napoléon. Ici à Ajaccio, un parcours fléché hein, quasiment, avec plein d'endroits à voir.
Il y avait une flèche pas très loin.
Et oui, c'est vrai qu'on marche dessus d'ailleurs, voilà. C'est étonnant parce que ce sont des flèches en métal, hein, doré. Et il faut savoir aussi qu'avant d'avoir célébré le bicentenaire de sa mort, on a célébré le bicentenaire de sa naissance. C'était en 1969, et ici même, du côté de la rue Fèche, Tino Rossi interprète la chanson patriotique « L'Ajaccienne », qui est l'hymne à la gloire de l'enfant du pays.
Alors c'est une chanson qui date du 19e siècle, il me semble, hein. Et en 1969, Tino Rossi interprète cette chanson qui fait hommage aux bonapartistes, hein, aux Bonaparte. Et ça avait dû avoir quand même une certaine résonance quand on pense que c'est le deuxième Ajaccien le plus connu au monde qui interprète un hymne au premier Ajaccien le plus connu au monde, voilà.
La boucle est presque bouclée. Bon, merci beaucoup Pierre-André Nicolaï.
De rien.
Merci. Vous êtes conférencier, guide aussi pour la ville d'Ajaccio et spécialiste de Napoléon, même si on ne vous présente pas comme ça, vous en êtes un, je peux vous le dire. Bravo.
Merci. Bon, après, quand vous êtes guide à Ajaccio, bon.
Oui, on est il y a des obligations.
Il faut quand même connaître un minimum l'histoire de Napoléon. Il y a des obligations, comme vous dites.
Merci Pierre-André.
De rien, bonne journée.
Dans un instant, le club francophone en Haïti autour de Michel Monin et de la Galerie Monin. Reportage et rencontre avec l'écrivain-poète James Noël et Pascal Monin qui réagiront aussi à l'assassinat du président haïtien le 7 juillet dernier. Avant cela, voici Gaëtan Roussel. Bon été à tous avec la librairie francophone estivale.
Est-ce que tu sais que 8 jours ça fait 11 520 minutes à la seconde près? Est-ce que tu sais que les avions planent 10 fois leur hauteur, dit ton maître près? Est-ce que tu sais que quand les fleurs se fanent, elles nous laissent leur odeur, leur amour, là, ici et tout autour? Est-ce que tu sais que quand le meilleur gagne, la plupart du temps c'est juste à 1 millimètre près? Je sais pas si tu sais, 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 je sais pas si tu sais. Est-ce que tu sais que de nos yeux coulent des larmes, des fleurs et des fleuves? Te dire à la rivière près. Est-ce que tu sais que nous deux doigts poussent des armes, des tonnes et des tonnes? Je peux pas te dire au drame près. Je sais pas si tu sais, 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 je sais pas si tu sais. s'éparpille ici. Tout le monde regarde personne et personne ne voit tout le monde. Je sais pas si tu sais. 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 Je sais pas si tu sais.
C'était Gaëtan Roussel avec « Est-ce que tu sais ?»
Radio-Télévision Suisse, RTBF,
Radio-Canada, France Inter,
RFI, Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Guérard.
C'est le club francophone à présent, avec une escale en Haïti. Michel Monin a fait la promotion de nombreux artistes haïtiens toute sa vie. Il est décédé en novembre dernier et le monde de l'art a salué son travail avec sa famille d'origine suisse qui un jour a quitté son pays natal pour se lancer dans une aventure qui a marqué la culture de l'île. Cette histoire est incroyable. Nous étions allés sur place il y a 3 ans pour vous faire découvrir cette galerie atypique. On écoute un extrait de ce reportage et on se retrouve juste après avec la fille de Michel Monin, Pascal Monin, et l'écrivain poète haïtien James Noël. Voilà, on est arrivé à la galerie Monin sur les hauteurs de Port-au-Prince. Bonjour Michel Monin.
Ouais, bien bonjour.
Merci beaucoup d'accueillir la librairie francophone ici dans ce domaine, car c'est un domaine magnifique. Il y a une maison qui contient toutes sortes d'œuvres d'artistes haïtiens. On va revenir sur tout ce que vous avez fait, tout le travail depuis et toujours pour les artistes haïtiens. Et puis il y a comme ça une atmosphère, un environnement flamboyant ici. On se sent particulièrement bien, particulièrement heureux. Vous avez réussi à générer une ambiance.
Enfin, merci pour tous ces compliments. Je ne pense pas que je sois les seuls à la mériter. Ce domaine est très ancien. C'était mes parents qui étaient ici. Donc ça fait très longtemps qu'on est là. On est des fanatiques de l'environnement. Donc on a reboisé parce que où j'ai planté des centaines de bambous, ouais. Il ne nous manque qu'un petit panda.
ça peut s'arranger, vous savez. Bon, effectivement, il y a toutes sortes de verdure ici. On a des palmiers, des bananiers, des bambous. On est dans une atmosphère très naturelle. Vous êtes né à Bienne, en Suisse, Michel. Votre famille s'installe en Haïti alors que vous avez 7 ans. Ils ont un magasin à l'époque qui s'appelle les Galeries Suisses. Et vous vendez des dentelles, des montres, des parfums. Le magasin ne rapporte pas beaucoup d'argent, alors... Comme c'est le début de la période de l'art haïtien,
du centre d'art,
dans les années 70, il change.
Mes parents sont collectionneurs et ils deviennent très amis avec David Peters, qui a été le fondateur du centre d'art. Et donc là, et c'est là qu'ils commencent à avoir leur collection. C'est-à-dire qu'il avait une qualité de vendeur. Je pense qu'il aurait pu vendre de la glace aux Esquimaux. Donc c'est comme ça que... Ça a évolué jusqu'au jour où on s'est dit, il faut faire une galerie.
Donc les galeries suisses deviennent la galerie Monin, et vous découvrez très vite, avec votre famille, les peintres haïtiens. Il se passe quelque chose de très particulier ici, parce qu'il y a plein d'artistes qui peignent dans leur coin, qui ne sont pas organisés du tout, et il y a un style qui émerge, qui naît.
Oui, c'est-à-dire qu'à cette époque, il y a... De moins en moins, le peintre naïf, ce qu'on appelait le peintre naïf ou l'art brut, si vous voulez. Et donc, moi, je commence avec des très jeunes, ils avaient 15, 16 ans, et je leur dis maintenant, il faudra 70% de transpiration et 30% d'inspiration.
On va visiter cet endroit, cette demeure où habitaient vos parents, vous habitez aussi aujourd'hui. Une demeure qui est complètement transformée en galerie d'art. On est dans une maison, imaginez une maison, une vaste maison avec plein de pièces. Que ce soit les toilettes, la salle de bain, la cuisine ou le salon, il y a des œuvres d'art partout. Et c'est magique parce qu'il y a vraiment un éclectisme incroyable. On y va, Michel ?
Oui, allez-y.
Allons-y.
Donc on rentre dans cette salle et il y a déjà plein d'œuvres, des souvenirs aussi. J'ai vu une lettre d'Hillary Clinton qui vous remerciait. Il y a André Malraux aussi qui est venu dans cet endroit. La médaille de la ville de Nice. Vous avez parcouru le monde.
Ah oui, c'est-à-dire qu'on a fait des expositions, je dirais, partout.
Donc il y a des patios, on a dans cette déambulation dans la maison, évidemment, des commodités, les sanitaires. Il y a des toiles partout, vous vivez au milieu de l'art.
Bon, on en a beaucoup, beaucoup ces temps-ci, parce que je dirais qu'il n'y a pratiquement pas de vente. Vu que le pays a une telle mauvaise réputation ces temps-ci, qu'il n'y a pas de tourisme. Or, 80% de notre chiffre d'affaires a toujours été fait par les touristes. Notre meilleure période remonte à Jean-Claude Duvalier, vous vous rendez compte? À partir de là, c'est...
Vous dites ça, la meilleure période, c'est à l'époque de Duvalier.
Duvalier, ouais. C'est là qu'il y avait le Club Med, donc il y avait un afflux de touristes, ouais. Etc.
Malgré tout ce qu'il a fait, vous arrivez à dire ça aujourd'hui?
Qui a fait quoi?
Duvalier.
Ça n'a rien à voir avec, c'est-à-dire avec la politique. À l'époque,
oui, bon.
À l'époque, il y avait quelque chose qui était certain. Le pays était sécur, ce que nous avons perdu. Donc maintenant, plus personne ne vient en Haïti parce qu'ils ont peur. Voilà.
Vous regrettez, vous, cette période de Duvalier?
Bon, je ne la regrette pas au niveau de ma nationalité haïtienne, oui. Mais je la regrette au niveau affaires. C'est sûr.
Il faut distinguer les deux,
oui.
Vous croyez?
Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait, parce que je vous dis, c'était là qu'on a fait nos meilleurs chiffres d'affaires.
Bonjour Pascal Monin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Votre père que l'on vient d'entendre dans ce reportage est donc parti en novembre à l'âge de 80 ans. On avait visité avec lui donc cette galerie maison, la maison de votre enfance. C'était comment la vie à Pétionville pour vous dans cette demeure incroyable?
En fait, l'histoire de la Galerie Monin, elle commence à Port-au-Prince, au boulevard Jean-Jacques Dessalines. Ensuite, elle continue à Pétionville. Et aujourd'hui, elle est à La Boule. Et donc, tout ça pour montrer les aléas un peu de l'histoire haïtienne. Donc, grandir dans un environnement pareil était évidemment magnifique. Mais surtout, moi, ce qui m'a marqué... C'est le mardi et le vendredi, avec mon père, nous prenions la voiture et nous allions visiter les artistes dans leur atelier.
Alors Michel Monin a su se détacher de la politique compliquée d'Haïti, mais ce qu'il nous disait était évocateur. La période Duvalier a selon lui favorisé le rayonnement de l'art haïtien et le tourisme. C'est peut-être difficile à comprendre ça quand on sait le mal qu'a fait Duvalier au peuple haïtien, non?
Absolument. Et pour revenir sur ce qu'il a dit, c'est-à-dire que à l'époque, parce que justement là, j'ai un texte qu'il écrivait sur le Tché, ils étaient comme tout le monde en Haïti en train de dénoncer les agissements de Duvalier. Mais c'est avec le recul, quand il vous le parle, avec la dégradation continuelle qui a commencé sous Duvalier et qui a continué après lui. C'est de ce regard-là qu'il vous parle des affaires et parce que à l'époque en 86 quand Duvalier est tombé, il était comme beaucoup d'Haïtiens dans les rues à fêter le départ de Duvalier.
D'accord. Alors James Noël est aussi avec nous, écrivain, un poète fondateur avec vous de la revue Intranquillité qui croise les cultures, l'art et la littérature. Bonjour James.
Bonjour Emmanuel.
C'est compliqué de dire ça, mais souvent l'art est transcendé comme ça par les épreuves et par les traumatismes. Les artistes qui vivent ça arrivent un jour à sublimer le réel. Vous êtes d'accord avec ça, James?
Ben, on l'a bien dit, la souffrance enfante le songe comme une ruche ses abeilles. C'est-à-dire, le malheur et le chaos souvent est un bonheur pour la création. Celui qui crée, eh ben... pas qu'il plane, mais par sa création, par son miel, il arrive un petit peu à transcender, à s'exciter, justement, à force de créer, de donner quelque chose de beau.
Pascal Monin, c'est vrai que votre père, il a compensé en quelque sorte le manque politique, le manque d'engagement politique pour la culture en Haïti.
Absolument. Et c'est vrai que nous avons créé un îlot de calme et de tranquillité où pouvaient venir se ressourcer les artistes.
Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné le 7 juillet dernier par un commando armé. On va dire la vérité aux auditeurs, hein, Pascal et James, nous enregistrons cette séquence à ce moment-là, le 7 juillet, et nous venons d'apprendre il y a quelques heures la nouvelle. Quelle est votre réaction, James Noël? Quel est le risque pour le pays là aujourd'hui?
Moi je suis abasourdi et sonné et je me sens cadavre. C'est-à-dire quand on est haïtien, on se réveille un matin, on apprend cette nouvelle, et quelles que soient les divergences, quelle que soit l'idée qu'on se faisait de ce président, eh bien là, c'est-à-dire c'est on est à la fois, c'est-à-dire c'est le sommet qui est décapité. Donc du coup, je suis totalement et sonné. Et c'était déjà le chaos, mais là, et ça ouvre une porte grandement dans l'incertitude. Et même si en même temps, je rêve justement que quelque chose va émerger de tout ça, mais c'est ce qui se passe en ce moment.
Oui.
Nous sommes plutôt plongés, mais encore plus bas, quoi.
Alors, on parlait du chaos, effectivement, il y a eu récemment des assassinats de militants que l'on attribue au régime, que l'on attribue à la présidence. Et malgré le fait qu'il y ait ces dérives terribles en Haïti avec cette présidence-là, l'assassinat du président décapite quand même Haïti. Comment on peut le voir, ça?
Et au fait, c'est un régime qui était accusé justement d'être proche des gangs, ou en tout cas qui les encourageait. Et tous les jours, il y avait vraiment des dizaines de kidnappings au quotidien. C'est énorme. Le bâtonnier même de Port-au-Prince qui était assassiné.
Oui, oui.
Et puis, voilà. Et à chaque fois, on accusait la présidence.
Mais vous êtes abasourdi quand même par cet acte, par cet assassinat.
En fait, je suis de 78, c'est-à-dire je suis abasourdi de voir que c'est devenu le lot d'un peuple. C'est-à-dire, j'arrive pas à prendre la mort de Jovenel Moïse comme un cas isolé. Mmh. On espère une explication bientôt. Mais pour moi, depuis 40 ans que je suis sur cette terre, et je constate que cette horreur absolue, mais justement, continue et se prolonge et enfante encore d'autres horreurs. Je suis abasourdi par tout ça.
Oui, encore et toujours. Oui. Pascal Monin, l'assassinat du président peut déstabiliser le pays sur le long terme?
Je dirais que il faut aussi comprendre que nous avons, en tant qu'Haïtiens, peur d'espérer. Parce que chaque fois que nous avons pensé que le changement allait arriver, le changement ne s'est pas passé. 86 a été un moment d'immense joie et d'espoir. Il y a eu plein de dates et chaque fois qu'il y a eu des retournements, même, on va dire, après l'horrible tremblement de terre, tout à coup on s'est dit, bon, on a touché le fond, on ne peut que remonter. Et chaque fois qu'on pense avoir touché le fond, on va plus bas. Mmh. Et donc, en effet, peut-être que quelque chose peut changer, mais je pense qu'on a tous très peur. Évidemment, on a envie de se dire que, à partir, en tout cas, après quelque chose comme l'assassinat d'un président, quelque chose devrait changer. Et on a peur d'espérer, mais si quelque chose de bon pouvait sortir, bon, ce serait pour notre plus grand bonheur.
James Noël, vous voulez lire un poème, je crois.
Oui, ce poème que j'avais écrit en hommage au juge Montferrier d'Orval. J'avais démarré la vie immense en jeune poète sentimental. Je la finirai croque-mort. J'enterrerai toutes mes veuves. Les as de la terre sont lourds. Quadragénaire, je compte plus de cadavres que de poèmes.
Merci beaucoup James Noël, merci Pascal Monin. Toutes nos pensées aujourd'hui pour le peuple haïtien et pour tous les drames, toutes les épreuves que ce peuple subit depuis tant d'années. Merci beaucoup Pascal, à bientôt.
À bientôt.
À bientôt James, au revoir.
Merci Emmanuel. Merci.
Chaque semaine dans la librairie francophone estivale, un titre joué en acoustique dans notre studio. Aujourd'hui, l'artiste comorien Elias interprète Touara Blues.
Hey, 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 hey. Hey, 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 yeah. hey, 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 hey. Na 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 na. Yanu magongo magongo, oh, yari tendeya, hama majondo majondo, do warivu mania, magongo magongo, oh, doraya tendeza, basi tufani tufani, doraji walia, hey, titu hambazinu mgude. Zanza na sire basemi hono jaja uhanza na riwane nizo na uhale manza maudu oa na wala wefaza hey 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 na 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 yanu mawondo mawondo rangura sulusi wabundu Noyensi wiyo ihondo Hata koda nzilo shemeza kodo hey, Titu hambazinu mgude ya zanza Nasire basemi hono jaja uhanza Nariwane nizo na uhale manza Maudu oa na wala wefaza
C'était Elias avec Touara Blues dans notre studio.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
Chaque semaine pour cette nouvelle saison, on vous propose deux livres de poche. Le premier est choisi par un libraire de la francophonie. On part tout de suite à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec Estelle Denouanman. Bonjour Estelle.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à la librairie de France. Pouvez-vous nous décrire ce que vous voyez par la fenêtre, la vitrine de votre librairie à Abidjan ?
Bah, par la vitrine de ma librairie à Abidjan, je vois tout juste devant moi le casino de Prima Zone 4C.
Très bien.
C'est une galerie en fait.
C'est une galerie commerciale. Et quelle est l'ambiance dans les rues d'Abidjan en ce moment ?
Oh, nous sommes en plein temps pluvieux, donc ça va dans tous les sens, mais tout le monde se met à l'abri quand il pleut. L'Ivoirien, il a peur de la pluie.
D'accord, et donc du coup, il peut se réfugier dans la librairie ?
Oui, ils peuvent se réfugier pour ceux qui le veulent.
Voilà, donc s'ils nous écoutent, eh bien il faut se réfugier dans la librairie de France. Quel livre conseillez-vous Quel livre de poche conseillez-vous aux auditeurs pour l'été, du coup, Estelle ?
Bon, pour l'été, moi, je voudrais bien proposer un livre qui n'est pas tellement du goût de tout le monde, mais duquel j'ai pu tirer quelque chose d'exceptionnel.
D'accord.
C'est Les quatre coins du cœur de Françoise Sagan.
Oui, Sagan.
Chez Pocket.
Oui.
Oui.
Pourquoi ?
Bah, je l'ai choisi parce que c'est un roman qui interroge les relations familiales et bien plus encore la vie conjugale avec ses joies, mais également ses peines. Sagan, dans cet ouvrage, met en lumière le malaise engendré par un mariage de raison. En tout cas, c'est une très belle lecture.
Oui, c'est le dernier roman d'ailleurs de Françoise Sagan. Qu'est-ce qui vous a plu le plus dans ce livre ? Qu'est-ce que vous diriez à un client qui vient vous voir pour le convaincre de le lire ?
Bah, pour le convaincre de le lire, que je pourrais dire au client ? C'est que ce qui est dépeint dans cet ouvrage est plus ou moins la réalité que vivent beaucoup des familles dans notre société d'aujourd'hui.
Oui, avec les femmes aussi, hein, la condition des femmes.
Voilà.
Bon.
Vous avez tout compris.
Merci beaucoup Estelle Denouanman. Merci.
Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie Emmanuel.
Vous êtes libraire à Abidjan, dans la librairie de France, en Côte d'Ivoire. Vous écoutez la librairie francophone estivale sur RFI tous les week-ends de l'été. À bientôt Estelle.
À bientôt.
Et notre conseil aujourd'hui, de notre côté, c'est Arthur H. pour son livre Fugue, paru en poche chez Folio.
Tout commence avec un dialogue imaginaire avec Jean-Sébastien Bach, Arthur, compositeur de l'art de la fugue. Bach qui vit des drames familiaux toute sa vie et qui est un grand marcheur. Il va prendre sa vie en main, quitte à devoir marcher des centaines de kilomètres pour parfaire son éducation.
Oui, j'ai trouvé ça très beau que, enfin, dans le cadre d'exploration d'une fugue, que lui aussi soit parti un peu à l'aventure. Enfin, il savait où il allait. C'était pas une fugue, mais c'était quand même un voyage à pied assez éprouvant, une aventure, et où il allait vers l'inconnu. Donc, il y avait une résonance avec la fugue de ma mère. C'est pour ça qu'au début, je voulais appeler le livre Bach, ma mère et moi. Mais c'était pas très sérieux dans Mercure de France.
Vous entamez en tout cas cette confidence auprès de Bach. Et cette fugue, Arthur H., elle est par définition éphémère. La vôtre aussi a été de courte durée. Vous, ça se passe à un retour de vacances avec votre papa, Jacques Higelin, qui vous emmène en Guadeloupe. Mmh. Au moment du départ, à l'aéroport, vous vous éclipsez pour rester et retourner à Dehé, une ville de Guadeloupe, où vous laissez un mot à votre père à ce moment-là, que votre petit frère doit lui remettre. Mmh. Jacques est désemparé et montre votre mot à Coluche, qui l'accompagne. Et Coluche lui dit, c'est normal de fuir à cet âge-là, tout le monde fait ça.
Oui, il lui dit, pas t'inquiéter, c'est normal de cet âge, j'avais quand même juste 15 ans.
Oui.
Il me dit, laisse-le tranquille, on va bien le retrouver un jour. Et du coup, moi, dans ma naïveté, je pensais qu'une fois qu'on avait passé les douanes, c'était une espèce de truc sacré, en fait, en vrai, il aurait pu tout à fait ressortir.
Oui,
mais il l'a pas fait. Et du coup, ce qui était très bien pour moi, parce que j'ai pu vivre mon aventure, me cacher, tout ça. Mais après, effectivement, quand il est rentré et qu'il a expliqué à ma mère, moi je devais retourner au lycée, j'avais 15 ans, j'étais pas très doué à l'époque pour quoi que ce soit. Et quand il a dit, elle l'a appelé, Arthur, il est où? Ah, il est pas là, il est resté là-bas. Ouais. Pourquoi il est où? Ah, je sais pas où il est. Tu sais pas où il est? Non, je sais pas. Voilà, pour ma mère, c'était plus difficile que pour mon père d'accepter. Ouais, normal.
Mais avant, Arthur, vous donnez l'air de rien l'alerte à votre père. Lors d'une virée, après une soirée arrosée en champignons hallucinogènes, dans la maison de Coluche, c'est n'importe quoi, ce passage-là. On vous fait manger une omelette avec des champignons hallucinogènes.
Oui, c'était un peu inconscient de leur part, c'est sûr. Mais encore une fois, c'était une vraie expérience initiatique que j'ai pas vécu grand-chose avec mon père dans ma vie. Mais ça, c'était quelque chose de fort, en tout cas. À 15 ans, on a fait ça ensemble. Et
vous partez avec lui dans la forêt, comme ça, dans la nature. On va écouter un extrait de votre livre qui évoque ce passage justement, et c'est Amine Maalouf qui a accepté de vous lire, Arthur H.
D'accord.
C'est notre petite surprise. On va envoyer la musique, Amine, et je vous fais un signe.
On s'est enfoncé dans l'obscurité et les lumières de la villa ont disparu. Jacques ouvrait le chemin, je marchais juste derrière lui, mettant mes pas dans les siens, quand une idée m'est apparue avec force. Dans ma cervelle ouverte, tout était terriblement symbolique. J'ai demandé à mon père de s'arrêter, il s'est retourné face à moi. Je lui ai dit des mots simples. Je ne pourrai jamais trouver ma voie si je reste derrière toi, si je marche dans tes pas. Il faut que je suive ma propre route. Laisse-moi partir. Il y eut un long silence. Il me regardait sans savoir quoi dire. Tout devait être symbolique pour lui aussi. Ok, d'accord, fais gaffe à toi. Puis il m'a laissé et il est reparti, sans se retourner, vers les bruits et les lumières de la fête. Je suis resté tout seul dans l'ombre et j'ai décidé d'explorer ce nouveau territoire qui n'appartenait plus qu'à moi.
Merci beaucoup.
Arthur,
ça me touche beaucoup d'entendre la voix d'Amine. Quand ça s'est passé, on avait pris des champignons hallucinogènes très très forts, très très puissants. Donc on était vraiment dans un autre monde, quoi. C'était pas un truc. J'aurais jamais pu lui dire ça dans un état normal. Mais par contre, avec toutes les perceptions qui explosaient littéralement, la jungle qui semblait vivante, ce moment où on s'est regardé était complètement surnaturel grâce à ces substances.
Rester en Guadeloupe et devenir matelot sur un bateau, ça a vraiment changé votre regard sur la vie et sur vous-même, Arthur ?
Oh bah oui, parce que déjà ça c'était un acte qui était quand même symboliquement puissant pour moi. Puis après, deux jours après de s'enfuir, et Voilà, je voulais raconter cette histoire et l'histoire de ma mère, parce que c'était deux jolies histoires de... un moment de décider très clairement de sa propre liberté. Voilà, choisir sa liberté de manière quand même assez radicale. Ouais, vraiment, c'est ça.
Fugue d'Arthur H. est paru en poche chez Folio, donc. On termine cette émission avec le bonus créole. Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020, a choisi Jean-Marie Gustave Le Clésio.
Souvent, on oublie que la créolité n'est pas nécessairement liée à la négritude. Et je trouve intéressant de rappeler que Le Clésio a une dimension mauricienne dans son œuvre très importante, qu'en particulier, il rend hommage aux petites devinettes très poétiques qui constituent un des points de la culture de l'île Maurice. Et ce livre s'appelle Cirandane. C'est un livre que j'avais trouvé très joli, qui en plus est illustré par Le Clésio lui-même, publié dans les années 1990 chez Segers. Et c'était un très beau livre qui précipitait en fait le lecteur dans cet univers poétique vraiment du monde de la devinette. Le Clésio m'a toujours fasciné par sa capacité à faire des nouvelles comme La Ronde, comme des romans comme Anisha, etc. Mais le Cirandane sortait tellement de l'habituel chez lui que c'était vraiment fascinant à regarder.
Merci beaucoup Hervé Le Tellier, grand ami de la librairie francophone Jean-Marie Gustave Le Clésio. On lui dédie un peu de musique mauricienne du coup. Ça vous va aussi ?
Parfait.
Parfait. Merci Hervé.
Merci.
La personne qui pourrit, toi qu'à te plaisir dans ça. Beaucoup santé, de vous danser à la jalsa. Mais nous, Mauriciens, nous n'avons pas difficile faire l'amusement. En la guitare, en jerrican, en maravane. Des trois bouteilles, nous pouvons viser jusqu'à beau matin. Mais la gros malin qui vous guette, là, ça même si prend l'air. Si toi n'es transé, n'a pas hésité pour te danser. Pousse-toi les reins, les la personne qui pourrit, toi qu'à te faire danser. Jalsa, 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 c'est gars. Bate, 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 mais toi t'es ricane. Sacouillé, 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 toi t'es maravane.
C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la rédaction Jean-Philippe Véret de France Inter avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de la RTS et de RFI. Charles de Cilia avec Fabrice Desmaz à la réalisation, Valentine Chédebois à la prog musicale. La semaine prochaine, nous irons dans un cirque au milieu des lions, en Belgique avec un libraire, en Suisse avec Amélie Nothomb et nous serons avec Patrice Lecomte, Denis Lavant, Polard et le dramaturge Fabrice Melchior. Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week-end et bel été à tous. On quitte la multidiffusion pour se retrouver sur France Inter uniquement. La rediffusion de la librairie francophone estivale, c'est tous les lundis à 5h du matin. À suivre dans 10 minutes, Guy Vanctil avec Je reviens du monde d'avant.